Donc Jérémie chapitre 7 et 8, se cacher derrière la religion dans la poursuite de sa propre voie. Ce n'est pas un thème qui est plaisant à traiter, mais Dieu traite parce que c'est très prévalent dans le monde, en Guyane, dans le monde. Beaucoup se cachent derrière la religion pour continuer à suivre leur propre voie. Et on va tourner dans Jérémie donc chapitre 7. Et on va lire un extrait pour commencer, ensuite on va lire la suite. Jérémie chapitre 7. C'est page 574. Et si on a besoin de Bible, il y a des Bibles aussi, ceux qui n'ont pas leur propre Bible ce matin. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin, qui aimeraient avoir une Bible? Page 574. Page 574, Jérémie chapitre 7, c'est le dernier verset de la page. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, donc le temple, et là publie cette parole. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda qui entrez par ces portes. Pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi ? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel, n'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, car je n'ai point parlé à vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs et prononce une complainte, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben-Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage. Et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, Seigneur Dieu, dans ce premier chapitre qu'on verra, chapitre 7, Seigneur Dieu, aide-moi de bien exposer droitement ta parole, touche les cœurs, d'être réceptif, Seigneur Dieu. Seigneur, on te prie, convainc et convie, Seigneur Dieu, ceux qui ne te connaissent pas encore comme Seigneur et Sauveur, de vraiment être brisés dans leur cœur, de venir à toi d'un cœur triste et d'un cœur repentant, mettant leur foi en toi, Seigneur Dieu, pour être sauvés. Seigneur Dieu, fortifie la foi de ceux qui sont déjà venus à toi, Seigneur, ceux que tu connais, Seigneur Dieu, comme les tiens. Fortifie leur foi, nourris-les de ta parole, on te prie. On te prie au nom de Jésus. Amen. Se cacher derrière donc la religion. Judas voulait continuer à suivre ses péchés. Il voulait suivre les penchants de leur cœur. Les penchants de leur mauvais cœur, même si on pourrait le dire, comme Dieu le dit au verset 24. Mais en même temps, ils voulaient qui de leur côté? Ils voulaient Dieu. Ils voulaient Dieu de leur côté. Ils voulaient être avec Dieu, mais en même temps, ils voulaient suivre leur propre voie. Et Dieu leur dit, non, ça ne marche pas. Dieu va au travers toute forme de religiosité qui ne coupe pas directement la racine du problème. C'est notre péché, c'est notre égoïsme, c'est notre égocentrisme, c'est notre incrédulité. On ne peut pas revenir à Dieu pour continuer à suivre sa propre voie. Alors, en voulant Dieu en même temps que suivre leur propre voie, ah ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller adorer Dieu au temple. Hein, ils avaient un beau grand temple en plein milieu de Jérusalem, une merveille. Et la gloire de Dieu était toujours là. Le nuage de gloire de sa présence était toujours là. Alors, ils ont Dieu parmi eux. On va aller au temple, on va se prosterner, on va sortir du temple, on va retourner à ce qu'on venait de faire, au branchant de nos propres voies. On va bien s'habiller pour aller se prosterner, ensuite on va retourner à notre prostitution, notre adultère, notre violence, notre profitage, notre égoïsme, etc. Et Dieu dit non, ça ne marche pas. Alors le temple ici, c'est le temple, ils se sont tournés vers le temple pour dire hey, on a le temple parmi nous, on est correct, on va aller adorer Dieu. Mais en plus, c'est même pas le fait qu'ils ont le temple, c'est ils y allaient. Parce que Dieu avait dit à Jérémie, va, place-toi à l'entrée du temple et dis à ceux qui rentrent. C'est les gens qui allaient au temple et ensuite qui sortaient du temple pour continuer leur propre vie. Ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir Dieu de leur côté. Maintenant, ils vont continuer à vivre leur propre vie. Et il y a beaucoup, beaucoup d'églises comme ça dans le monde, à travers le monde. Des églises qui, d'un côté, on adore Dieu, puis, ça ne veut pas dire vraiment trop, parce que le reste de la semaine, on continue à suivre notre propre voie. Faire ce qui nous semble bon. Faire ce que nous, on aime faire. Mais il y avait autre chose aussi. Au verset 8. Au chapitre 8. Et on va lire chapitre 8. Chapitre 8, verset 1, donc, page 576. « En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point et ils seront comme du fumier sur la terre. » La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Ils persistent dans la tromperie. Ils refusent de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devraient. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux en sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Je vais en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et tes feuilles se flétriront. Et les feuilles se flétriront, ce que je leur avais donné leur échappera. Pourquoi restons-nous assis, rassemblés, vous, et allons dans les villes fortes pour y périr, car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées, parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix, il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. Le hennissement de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan, et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays de ceux qu'ils renferment, la ville et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basilics, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Là, c'est Jérémie qui parle. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffle au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée, par leurs idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Alors au chapitre 8, on a vu au verset 8, quelle autre chose que le temple est-ce qu'ils prenaient comme leur porte-bonheur? La parole de Dieu. Comment pouvez-vous dire? Nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous. On va au temple se prosterner devant Dieu. Ensuite, on continue à suivre notre propre voie. On a nos scribes qui nous écrivent la loi de Dieu. Ah. On en a peut-être même des copies à la maison. Ah. Ensuite, on va continuer à suivre les penchants de notre propre voie. Et Dieu dit, oh, ça ne marche pas. Ne faites pas du temple, ne faites pas de ma parole comme des portes de bonheur. Ça ne vous sert à rien. Donc ici, en deuxième point, la parole de Dieu. La parole de Dieu leur servait de porte-bonheur. Ils l'avaient, mais ils n'en tenaient pas compte. Ils prenaient ce qu'ils aimaient, il y avait probablement des passages favoris. Mais ça ne changeait vraiment pas grand-chose concrètement. Alors Dieu les appelle à se détourner. Se détourner de quoi? De leur péché. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans vouloir se détourner de nos péchés. Pourquoi? Parce que Dieu haït le péché. Et c'est bien, Dieu est un Dieu qui est bon, qui est saint, qui est juste. Il haït le mal, il est saint, il est bon, il ne fait rien de mal. Il n'est pas l'auteur du mal. Il est patient vis-à-vis du mal. Il a un plan, il va se servir du mal et va le tourner en bien pour ceux qu'il aime. Mais ici, il va donner le fruit de leur propre voie, ceux qui se poursuivent le mal. Mais il les appelle à se détourner. Il va leur dire, « Hey, abandonnez !» Chapitre 7, on l'a lu. « Réformez vos voies et vos œuvres. » Il parle de l'oppression, ceux qui prennent avantage de... des veuves, puis des orphelins, de profiter des autres. Ici, on parle de profiter des plus démunis, mais qu'on prenne avantage des démunis ou prendre avantage des généreux, qu'on prenne avantage du système pour se faire vivre par d'autres, ça, c'est ce que Dieu haït. Dieu haït ça. Et ce n'était pas rare à ce moment-là. Prendre avantage, violence, les meurtres, comme Jésus dit, tout ce qui... suscite aussi la haine qui produit le meurtre. Les vols. Les adultères. Et combien c'est populaire aujourd'hui de simplement faire ce qu'on veut, avec qui on veut, pour le temps qu'on veut, du moment, entre guillemets, qu'il a consentement, mais l'honneur du mariage n'est pas assuré. L'idolâtrie. Ils allaient pour se prosterner devant Dieu. Et ils avaient leurs idoles à la maison. Mais plus que ça, ils allaient se prosterner devant Dieu, mais ils avaient aussi mis leurs idoles dans le temple. Ils se prosternaient aussi devant le soleil, devant la lune. Ils pensaient que c'est fini tout ça. Regardez dans le journal l'horoscope. C'est une manière d'adorer le soleil et les astres. De penser que nos vies dépendent de comment sont placés les astres. C'est de l'idolâtrie. Que ce soit l'occultisme direct, que ce soit le paganisme, que ce soit le voodoo, que ce soit prier les saints. Mais ensuite, on va se prosterner, on adore le vrai Dieu. Et Dieu haït ça. De quoi est-ce qu'il veut aussi qu'il se détourne? Le temple et la parole de Dieu, c'était quoi pour eux? C'était un faux espoir. Ils mettaient leur espoir dans les objets. Du temple et dans le fait d'avoir la Bible, mais pas dans le Dieu qui en était l'auteur. Et le Dieu sur qui donc le nom était invoqué sur le temple, c'était le nom de Dieu. C'était donc mal placé, c'était en faire des talismans, c'était en faire des porte-bonheur, c'était un faux espoir. Et Dieu leur dit, oubliez ça, oubliez de mettre votre espoir dans le fait que vous allez à l'église, entre guillemets. À ce moment-là, ce n'était pas l'église, c'était le temple. Mais aujourd'hui, on n'a pas de temple. Mais peut-être que ce n'est pas vraiment pour chercher Dieu qu'on va à l'église. C'est peut-être simplement parce que, je vais avoir Dieu de mon côté. Je vais pouvoir continuer à suivre ce que j'aime. Je vais avoir Dieu de mon côté. Je vais à l'église. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Moi, je vous encourage, assurez-vous que vous venez à l'église pour chercher réellement Dieu. Vraiment vouloir entendre ce qu'il a à dire et ne pas penser que l'église, ça vous aide. Et Dieu va vous bénir si vous venez à l'église. Parce que Dieu haït cette manière de penser. Dieu les pointe à ce qu'il a fait à Silo. De Silo. Vous savez, dans le désert, ils ont construit le tabernacle. Et quand ils sont rentrés dans le pays promis, c'est à Silo qu'ils ont monté le tabernacle. Et pour des décennies, c'était à Silo. Des siècles, pardon même. Mais c'est abandonné. À ce moment-là, ils ont pris l'arche de l'Alliance comme un porte-bonheur. Ils se sont dit, on est en bataille contre les Philistins. Ah, si Dieu est avec nous, on va prendre l'arche de l'Alliance. Et Dieu a permis qu'ils perdent. Que ça soit dévoilé que l'arche de l'Alliance, c'est pas un porte-bonheur. Et après ça, l'arche de l'Alliance n'est jamais retournée à Silo. Et Silo fut abandonné. Dieu, pourtant le silence a été fait avec une attention, une minutie, c'était tout brodé, c'était tout très beau. Mais Dieu l'a abandonné. Puis Dieu a dit, vous placez maintenant votre espoir dans le fait que vous avez le temple, là, puis vous allez au temple, vous prosternez. Ben, regardez bien ces pierres, il dit, à un moment donné, ils vont être détruites. Ma gloire va être partie. Tout va être détruit. Je vais complètement l'écraser, ce lieu. Dieu ne prenait pas plaisir en soi aux pierres qui en faisaient ce bâtiment merveilleux. C'était pour ce que ça symbolisait. Mais là, ça ne symbolisait plus vraiment une relation avec Dieu. Alors Dieu dit, je vais le détruire autant que je vais détruire Silo. Ensuite, au verset 16, Dieu interdit Jérémie de... Qu'est-ce qu'il ne veut pas que Jérémie fasse pour eux ? Prier. Parce que Dieu leur dit, là c'est, ne mettez pas votre confiance du fait que le pasteur prie pour vous. Ne mettez pas votre confiance que le prophète va prier pour vous. Parce que Dieu les condamne dans leur endurcissement. Ils ne veulent pas écouter. Et regardez dans Proverbe 28:9. Proverbe 28:9. Dieu nous avertit que Dieu connaît le cœur et Dieu connaît notre tendance que on peut suivre notre propre voie tant qu'on a du temps dans la prière, là ça va bien aller. Et Dieu dit non, ça j'en veux pas de prosterner, de prière pendant que vous continuez dans vos péchés, j'en veux pas. Proverbe 28:9. Il dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est pas juste que Dieu n'écoute pas nos prières si on veut continuer dans nos voies, puis qu'on ne veut pas vraiment écouter ce que Dieu a à dire. Notre prière même devient quelque chose qu'il a en horreur. Alors, c'est pour ça qu'il dit à Jérémie, Jérémie ne prie pas pour eux parce que ça ne changera rien. Eux sont appelés à se détourner de leur péché, à ne pas continuer dans la voie de l'endurcissement, et tant qu'ils sont endurcis, même si on prie pour eux, même si un prophète prie pour eux, je ne l'écouterai pas. À la place de prier pour eux, Dieu a appelé Jérémie à les confronter dans leur endurcissement. On l'a lu au verset 25 à 28. Jérémie, il les confronte pour être endurcis, pour refuser d'entendre. Pour avoir le cou raide, pour être dur d'oreille. Et qu'est-ce qu'il devait prononcer sur eux? au lieu d'une prière, une complainte. Une complainte. C'est quoi une complainte? Parce que justement, c'est le jugement avec la cause de leur jugement, le péché, de l'écrire d'une manière même poétique. Montrer que ça sera pas, il n'y a pas de raison de la joie en ce moment, c'est la raison pour la. Il y a lieu de la tristesse, une complainte. Pourquoi? À cause du jugement qui s'en venait. À cause de leur péché et de leur égoïsme. On l'a lu tout à l'heure, verset 30-31, l'ultime démonstration de leur égoïsme, de leur égocentrisme, c'est qu'ils voulaient continuer dans leurs adultères et dans toute l'immoralité, mais ils n'en voulaient pas de ce qui sort naturellement, hein, des relations qui normalement devraient être conjugales. Ah, bah alors qu'est-ce qu'on fait avec tous ces enfants-là? Oh, bah tiens, on va les offrir en sacrifice aux idoles! À ce moment-là, ils n'avaient peut-être pas l'opportunité de faire toutes sortes d'avortements. On s'en débarrasse, on peut continuer à s'en donner quoi joyeux, puis pas avoir ensuite à s'occuper de ce qui s'en sort, alors on va sacrifier les enfants. Et Dieu a dit ça. C'est quasiment l'ultime de leur égocentrisme, ils sacrifient les enfants. Il dit, ça ne m'est pas venu à l'idée. Dieu a mis dans nous une affection naturelle pour les enfants qu'on met au monde. Où est cette affection naturelle? Ils prennent ces enfants-là et ils le tuent en honneur des idoles. Mais en fin de compte, c'était simplement pour suivre leur propre voie, continuer à suivre leur propre passion. Ils sont esclaves de leur vice et de leur égocentrisme. Ils sont épris d'eux-mêmes. Et Dieu haït cela. Et Dieu les appelle avec tendresse, avec sérieux, qu'ils doivent se repentir. Et Dieu désire, encore ici, il leur dit, réformez vos voies et je vous laisserai ici. Il les appelle encore et dit, hey, c'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. Mais continuez. Alors au lieu de prier pour eux, Dieu a dit à Jérémie, écris une complainte à cause de la du degré d'endurcissement et du degré d'égoïsme, appelez vraiment à la repentance. Et aujourd'hui, c'est pareil. Vous savez, j'ai oublié, je voulais vous montrer ça à l'introduction. Attendez. C'était très intéressant pour moi à un moment donné. Je suis tombé sur un article après le carnaval. Et j'ai trouvé ça tellement révélateur. Ah oui. Bon. Voilà. Voilà le titre d'un article dans France Guyane. France Guyane, après le carnaval, retrouver l'équilibre et se rapprocher de Dieu. C'est exactement dans l'esprit de ce que Dieu condamnait son peuple. Là, ils allaient au temple. Après ça, ils s'en donnaient une joyeux à suivre leur prochain de leur propre voie. En Guyane, allez, on va faire la fête, une fête sensuelle, toutes sortes de mauvaises musiques, toutes sortes de sensualité, toutes sortes d'alcool, tout ça. Ensuite, il y a, on va retrouver l'équilibre et se rapprocher de Dieu, on va faire du jeûne. Et Dieu voit au travers de ça qu'il dit, non, ça c'est quasiment la religion est prise comme de quoi à cacher derrière pour pouvoir continuer à suivre ses propres voies. Dieu est cela. Alors, chapitre 8, Dieu appelle à la profanation de leur mort. Dieu appelle à la profanation de leur mort. Les os n'allaient pas être enterrés, ils allaient être là, les oiseaux allaient manger ce qu'ils pouvaient, ils allaient rester là, la déshonoration de leur mort. À cause du degré de péché et d'endurcissement et du refus de se repentir. Dieu dénonce ensuite l'endurcissement, l'entêtement, le refus d'apprendre. Il dit même ce qui est naturel. Et je vous demanderai, dites-moi si ce n'est pas naturel, est-ce que vous êtes déjà tombé? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait naturellement après qu'on tombe? On cherche à se relever. Hein? Quand on s'enfarge de quelque chose, quand on se combattage, là on essaie tranquillement, pas vite, on essaie de se relever. En fait, on fait juste rester là pour le reste de notre vie. Je suis tombé. Allez, je vais mourir de faim soit ici parce que je suis tombé. Il dit, la nature même, on se relève quand on tombe. Quand on se perd, ah, c'est bon, je suis perdu. Ok, je vais vivre ici le reste de ma vie. On cherche à faire quoi quand on est perdu? Ah, là, on essaie de retrouver notre... Si on est perdu dans la forêt, là, okay, le soleil est par là. On essaie de trouver une manière, n'est-ce pas? C'est naturel. Mais il dit, mon peuple ne fait même pas ça. Ils s'endurcissent. Les animaux même, les animaux, connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle, la grue, observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Ils la prennent en... Ils prennent la parole de Dieu comme un porte-bonheur, mais ils ne la connaissent pas vraiment. Est-ce que vous connaissez vraiment la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est simplement que vous aimez la voir parce que vous pensez que ça met Dieu de votre côté? La différence est grande, mais j'encourage d'avoir un cœur tendre, puis de la connaître, puis de la chercher, puis de lire avec intérêt. Enfin, vraiment, un livre que vous connaissez, que vous voulez connaître encore plus. Parce que Judas, à cette époque-là, il ne connaissait pas la loi de l'Éternel. Mais il la réclamait comme porte-bonheur. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Et Dieu condamne donc de prendre la parole de Dieu comme un porte-bonheur. Alors il leur dit, vous goûterez un jugement terrible. Ils vont goûter un jugement terrible. Les femmes vont être données à d'autres, les champs vont être prises, etc. Pourquoi? À cause que tous sont avides de gain, du plus petit jusqu'au plus vieux. Tous sont avides de gain. Tous ont l'amour de l'argent dans le cœur. Vous savez, pour avoir l'amour de l'argent, ça ne prend pas être riche. L'amour de l'argent, c'est autant parfois par les pauvres que les riches. Il y a les riches qui n'ont pas l'amour d'argent, il y a les pauvres qui n'ont pas l'amour d'argent. Et on s'entend. Abraham était riche, il n'avait pas l'amour d'argent. Lazare était très pauvre, il n'avait pas l'amour d'argent. Ce n'était pas ça qui lui importait. Mais la majorité dans ce monde, c'est l'amour de l'argent. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. La loterie est vendue. Ah, paraissent quasiment à tous les coins de rue. Qu'est-ce qu'ils vendent, les loteries? Ils vendent l'amour de l'argent. On n'en a rien pour notre argent à avoir une chance de devenir plus riche. Et Dieu haït l'argent mal gagné. Dans les proverbes, ça parle contre l'argent mal gagné. Dieu haït ça. Pourquoi? Parce que ça vend l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent de ce monde qui compte. C'est l'éternité. Et Dieu voyait que tous, depuis le plus jeune du plus grand, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit petit, qu'on soit grand, Dieu voyait que tous suivaient l'amour de l'argent. La tromperie religieuse de toutes sortes, il dit, le scribe, le sacrificateur, le prophète, tout le monde, c'était la tromperie. Et aujourd'hui aussi, il y a tellement dans la religion, tellement dans les églises, de faussetés qui sont dites si pieusement. Il y a beaucoup d'églises dans la Guyane, autour du monde, qui, oui, se servent de la Bible, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut faire dire ce qu'on veut à la Bible. Et il y en a qui disent, ah, si on avait assez de foi, Dieu nous bénirait. Il y a personne qui parle, ils ont beaucoup de maisons, ils ont des élevateurs. Voyez-vous comment Dieu m'a béni? Il l'a béni parce qu'il vend l'amour d'argent au peuple. Il dit, ah ouais, ben nous si on avait assez de foi, on serait béni aussi. Ah, si je ne suis pas béni, c'est que j'ai pas eu assez de foi. Et c'est des mensonges sur mensonges, parce que Dieu nous a jamais promis, ici-bas, de devenir riche. C'est pas la promesse. Dieu a dit qu'il s'occuperait de nous, qu'il pourvoirait ce qu'on aurait besoin. Mais il y en a qui trompent au nom de la religion, au nom de Jésus-Christ, qui est beaucoup de tromperies dans les mouvements charismatiques. Il y a des églises baptistes aussi, que c'est devenu une religion, mais il n'y a pas la vérité. L'église catholique, toutes les autres, il y a beaucoup de sortes d'églises qui n'enseignent pas la vérité. La tromperie. Et sans honte, il dit, ils ne rougissent pas, ils n'ont pas la honte. Encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de honte de faire toutes sortes de mauvaises choses. Alors il conclut au verset 18 à 22, la tristesse, la grande tristesse de Jérémie. Il dit, je voudrais soulager ma douleur. Imaginez-vous d'être Jérémie à ce moment-là. Jérémie qui aime Dieu, qui suit Dieu, puis il est obligé de proclamer une parole très dure, de jugement qui s'en vient, de les avertir. Et il voit que le peuple s'endurcit dans leur mal, il continue. Il n'y a personne parmi le peuple qui veut revenir à Dieu. C'est lourd sur Jérémie. C'est lourd. Jérémie était appelé le prophète des pleurs. Jérémie, justement, son amour pour Dieu lui garde un cœur tendre. Il n'est pas froid au fait que les gens s'endurcissent. Ça l'attriste. Et si on connaît Dieu comme notre sauveur, oui, de voir que tant suivent la grande, large route pour la perdition et ils refusent d'entendre quand on essaie de les avertir, ça devrait peser lourd sur notre cœur. Ça ne devrait pas nous laisser indifférents. Et Jérémie n'était pas laissé indifférent. Il conclut avec le verset 22, il dit, « N'y a-t-il point de baume en Galaad ?» Dieu avait mis dans la nature, dans la région de Galaad, des arbustes qui étaient très bons, qui avaient une sève là, très bénéfique. C'était une baume naturelle. Et elle était là, la baume. Et Dieu en tire illustration que n'y a-t-il pas de baume en Galaad ? Pourquoi mon peuple n'est pas guéri ? Si Dieu a pourvu quelque chose au niveau physique de baume, Dieu en a pourvu aussi pour le cœur et pour l'esprit. Dieu a pourvu son Fils pour être un baume spirituel. Pourquoi les gens ne sont pas guéris ? Pourquoi les gens ne sont pas guéris au sens spirituel, pas au sens physique ? Il y en a des églises qui prêchent. Ah oui, si on a assez de foi, on va être guéri physiquement. Mais ça, c'est faux. Dieu ne nous a pas promis ici-bas la guérison nécessairement. C'est au ciel qu'on va avoir un nouveau corps qui ne pourra plus jamais être malade. Mais il y en a qui tordent là-dessus. Mais Dieu a pourvu une guérison spirituelle, une délivrance de l'esclavage au péché. Pourquoi est-ce que les gens n'en sont pas récipients ? C'est pas parce qu'il n'est pas là. Les gens refusent de l'apprendre. Le peuple n'en veut pas. Et donc sur cette note, Jérémie conclut ce chapitre 8 en disant, n'y a-t-il point de baume ? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'est perdue ? Et aujourd'hui, on parle à ceux en 2026. Est-ce que vous connaissez vraiment la loi de l'Éternel ? Est-ce que vous connaissez vraiment Dieu ? Si oui, proclamez-le à d'autres. Grandissez dans votre crainte de Dieu en faisant ce qui est juste, en vous détournant du péché. Mais si vous ne le connaissez pas, et si vous le cherchez, vous pouvez le trouver. Parce que Dieu promet, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Mais attention, si on vient ici ou si on suit des choses religieuses, pensant qu'on peut avoir Dieu de son côté en suivant notre propre voie, vous l'avez entendu ce matin encore une fois. Dieu haït cela et Dieu avertit que ça n'aboutira pas, ça ne marche pas. Le jugement viendra, certainement, bientôt. Et donc si vous ne le connaissez pas encore comme votre Sauveur et Seigneur, la baume est disponible. Jésus-Christ a versé son sang pour nous sauver de nos péchés. Pas pour qu'on continue ensuite à suivre notre propre voie, mais d'un cœur triste et renouvelé, d'un cœur nouveau. Là, on peut commencer à apprendre à le servir. Si vous n'êtes pas encore revenu à Jésus-Christ pour avoir cette baume de votre âme, venez ce matin. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de venir ce matin? Est-ce qu'il y en a pour qui vous n'êtes pas sûr pour votre âme? Vous êtes tiraillé dans votre cœur. Revenez à lui. Venez à lui ce matin. On va prier. Seigneur Dieu, merci de ce qu'on a pu lire dans Jérémie chapitre 7 et 8, Seigneur Dieu, que tu désirais que ton peuple revienne à toi, se détourne de leurs péchés, se détourne de leurs fausses espérances du temple et de la parole de Dieu et de leurs péchés pour vraiment se tourner à toi, parce qu'il est juste, Seigneur Dieu, avoir ta grâce. Et Seigneur, en ce moment, en 2026, on te prie qu'aujourd'hui, s'il y en a qui sont perdus, pour ceux qui sont perdus, qu'ils puissent venir à toi. Et de nourrir avec ces paroles aussi ceux qui sont les tiens, qu'on puisse garder un cœur tendre face à tant de gens qui refusent de se repentir et croire. On te prie donc que tu puisses travailler dans chacun des cœurs, selon le besoin de chacun, au nom de Jésus. Si la question, n'hésitez pas après ou durant la semaine, mon épouse et moi, ça fait plaisir d'essayer de répondre à vos questions par la parole de Dieu. La parole de Dieu a les réponses. On va chanter « Tel que je suis, sans rien à moi ». Sinon, ton sang, versé pour moi. Si vous n'êtes pas encore venu à Jésus, c'est un appel de venir et d'accepter Jésus. C'est un chant qui exprime une conversion. Si c'est le cri de votre cœur ce matin, oh, criez-le à Dieu directement et il vous entendra. On va se lever pour chanter ce dernier cantique, « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang, versé pour moi, et à moi qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. »
Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je
dans ce bâtiment, le cœur lourd de péché, la conscience sachant qu'ils sont perdus devant Dieu, eh bien, vous ne pouvez les ressortir tels. Vous pouvez accepter Jésus maintenant. Et si vous avez besoin, si vous n'êtes pas sûr de comment, ben venez me voir après la réunion. Ça va nous faire plaisir de s'asseoir avec vous, puis vraiment vous montrer comment vous pouvez mettre votre confiance, et qu'est-ce que ça veut dire de mettre votre confiance en Jésus pour accepter son don gratuit, total de salut, pour que vous puissiez marcher en unité de vie après. Seigneur Dieu, merci pour cette réunion. On te prie que tu puisses toucher les cœurs. Seigneur, selon ta parole, on te prie. Au nom de Jésus. Donc, la réunion est finie. C'est le club d'ado. On commence ici à 16h. On va finir avant le soir, à 14h. Mercredi matin, un club d'enfants. Et puis, jeudi soir, 18h, réunion d'études bibliques et de prière. On pourra à venir. Bonne semaine.
puisse comprendre.